Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Alors les impôts, on m'a dit tu peux les faire par internet, les impôts. On m'a dit que c'était le même logiciel que la SNCF.
RTL.
J'ai du mal, hein. Déjà moi jamais je leur ai écrit, tous les gens me répondent.
Jusqu'à 22h.
Si vous avez déménagé, ça c'est mon cas. Si vous avez déménagé avant de remplir la case F, page 1, reportez-vous à la brique 2 du cadre A. Cadre A, page 5, voir notice, page 3, ligne A. Page 3, ligne A, remplissez la case F, page 1. Je dirais que je n'ai pas déménagé.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
On est d'accord avec cet humoriste Gilles Détroit. Moi, quand je remplis ma fiche, ma feuille d'impôt, parfois je me dis, tiens, je vais dire que je n'ai pas gagné d'argent. C'est tellement compliqué. Heureusement qu'il y a des petites notices.
J'aime bien sa phrase. Jamais je leur écris, mais tous les ans, ils me répondent.
Et ils n'envoient pas des cartes postales.
C'est très drôle.
Alors, quelle est l'histoire des impôts? On va la raconter avec Philippe Crevel, l'économiste. Bonsoir.
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 Vous nous avez fait une promesse hors antenne de rendre cette matière fun, rigolote, et on va la désacraliser, c'est ça avec vous?
Ah oui, quand même, parce que sinon, parler d'impôt sur le revenu à 21h30, sincèrement, on va tuer l'auditeur, et ça, RTL va pas être heureux.
Hein. Non, exactement.
Donc on va essayer de rigoler, quoi, un peu avec les impôts.
On va parler d'argent. Combien de milliards par an l'impôt sur le revenu rapporte-t-il à l'État?
70 milliards, hein. C'est déjà beaucoup, c'est trop pour certains, et c'est moins que dans d'autres pays, donc il ne faut pas se plaindre, on pourrait en payer davantage.
Quelle est la proportion, Philippe Crevel, de Français qui payent l'impôt?
Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu,
oui.
Eh ben, c'est moins de la moitié depuis la réforme de cette année de François Hollande. C'est à peu près 47% des contribuables qui paient l'impôt sur le revenu. Mais tout le monde paie, ou presque, la CSG, la contribution sociale généralisée. Donc ceux qui disent...
Ça, c'est pour alimenter la sécurité sociale.
Entre autres, sécurité sociale, le fonds de solidarité vieillesse, plein de choses. Et donc ça, c'est un peu de l'impôt sur le revenu, mais sans le dire. Et c'est vachement plus efficace. CSG, 90 milliards d'euros.
Ah, ça rapporte plus.
Impôt sur le revenu, 70 milliards. Oui. Mais ça, on ne le sait pas.
Il y a mieux encore.
Oui.
Il y a la TVA.
Ah, la TVA, c'est fantastique. Une invention française. On est les champions du monde de l'invention fiscale. On est... Vous avez vu que pour les mondiaux d'athlétisme, pas terrible. Deux médailles de bronze.
31e place mondiale. Oui.
En revanche, au niveau fiscal, on est les premiers. La TVA, on l'a exportée. On a gagné du fric avec la TVA. On l'a exportée. Tous les pays européens l'ont pris. Même le Brésil l'a pris.
Comment ça se vend, une idée pareille?
Ah oui.
Non, c'est vrai?
Non, ça se vend pas.
Ah,
ils l'ont adopté. Eh oui. Non.
On en vend des trucs gratuits.
Mais c'est,
en France.
C'est un Français. Il faut rendre grâce à Maurice Leray qui, en 1954, a inventé la TVA. Et ce produit, eh ben, a été généralisé à l'échelle mondiale. Et donc, il faut quand même, voilà, rendre mérite à l'invention fiscale française.
Ça marche bien parce que c'est indolore d'une certaine façon, la TVA, le CSG, on s'en rend pas compte, c'est intégré à nos dépenses.
Le meilleur impôt, qu'est-ce que c'est? C'est celui qu'on paie sans s'en rendre compte.
Exactement.
Hein, et on cherche tout État qui se respecte, cherche évidemment l'impôt automatique où personne se rendrait compte qu'il a donné de l'argent à l'État. Et ça, c'est génial. Et la TVA, ça a été à peu près donc cette solution. Parce que globalement, on croit que c'est l'entreprise qui l'appelle, alors qu'en fait, c'est nous, quand on consomme, quand on achète nos carottes, nos tomates, on paie de la TVA et on s'en rend pas compte.
En fait, on paie tout le temps des impôts.
Tout le temps. Ah oui, bien sûr. Ah oui, la moitié de notre richesse passe quand même dans les impôts. Donc il faut quand même qu'on en paie tous les jours. Hein.
L'impôt sur le revenu tel qu'on le connaît aujourd'hui, il naît en 1914 en France. Dans quelles circonstances?
1914, on a fêté le centenaire de la Première Guerre mondiale. Mmh. À l'époque, on avait un ennemi héréditaire. Ça s'appelait l'Allemagne, je crois. Et globalement, il fallait réarmer le pays parce qu'on était déjà dans un état un peu impécunieux qui oubliait de réarmer le pays. Et donc, à un moment donné, il y a la Chambre des députés qui s'est dit « Eh merde, il faut quand même qu'on ait des soldats ». Alors, ils avaient eu la mauvaise idée de les mettre des pantalons rouges, on les voyait de loin, mais il fallait quand même les armer de fusils, de chars. Et donc, l'impôt sur le revenu, c'était une recette supplémentaire. Ça faisait un siècle qu'on parlait de l'impôt sur le revenu, on n'y arrivait pas, et la guerre faisant, eh ben, on a inventé l'impôt.
Mais on n'a pas été les premiers. Il y avait d'autres pays qui avaient un système similaire?
Ah oui, l'Allemagne. Ben oui, notre ennemi héréditaire de l'époque avait inventé l'impôt sur le revenu au 19e siècle. Les Anglais, perfide Albion, déjà notre ennemi deuxième héréditaire, voire le premier, avait inventé au début du siècle d'avant l'impôt sur le revenu. Donc globalement, eux, ils avaient de l'avance.
Oui.
Ah, oui.
Et cet impôt sur le revenu, est-ce que c'est une idée collégiale ou il y a un homme derrière ça? dans les années, au début du XXe siècle.
Qui a porté l'impôt sur le revenu, hein, et d'ailleurs il en est presque mort de honte parce que sa femme a assassiné donc le patron du Figaro de l'époque, parce qu'il faisait l'objet évidemment de remarques de diffamation de la part du Figaro, et donc sa femme a tué, ce qui est pas bien quand même. Le rédacteur en chef du Figaro est Joseph Caillaux, est devenu le symbole de l'impôt sur le revenu, mais il faut voir qu'il y avait eu 200 projets au cours du 19e siècle. Donc en fait, c'est un projet qui avait du mal à donc aboutir en France, mais on peut dire que pour l'histoire, Joseph Caillaux, c'est l'homme de l'impôt sur le revenu.
Et qu'est-ce que ça remplace, l'impôt sur le revenu ? Il y avait autre chose avant, il y avait quand même des sources de financement pour l'État.
Oh là, oui.
Depuis longtemps, d'ailleurs.
Très longtemps. Oui. D'ailleurs, bon, la Révolution française s'est faite à la fois à cause de Rousseau et de Voltaire, mais également à cause de l'impôt. Mmh. Parce que justement, les Français considéraient déjà, à l'époque, qu'ils payaient trop d'impôts. Il y avait multiples impôts. Il y avait la taille, il y avait la dîme, il y avait la gabelle. Et donc, l'impôt sur le revenu visait donc un peu à simplifier ce système fiscal français extrêmement complexe, et puis à remplacer de vieux impôts qui avaient été créés sous la Révolution française.
C'est ce qu'on appelait les quatre vieilles.
Les quatre vieilles, c'était des contributions essentiellement assises sur l'immobilier, sur les revenus du patrimoine, qui avaient un faible rendement, qui était peu égalitaire. Et d'autre part, le rendement n'était pas suffisamment fort parce qu'on arrivait justement à la veille de la Première Guerre mondiale.
Alors, ce fameux ministre des Finances, Joseph Caillaux, il dépose plusieurs projets de loi. Est-ce que les assemblées acceptent rapidement ce texte d'impôt sur le revenu ? C'est populaire ?
Les députés, les sénateurs, ça coince, non ?
Ça coince parce que il faut voir que la Révolution française, c'est...
Parce qu'ils vont payer.
Ils vont payer, ça c'est vrai. Et puis, en plus, la Révolution française s'est faite contre l'impôt sur le revenu, contre l'impôt personnel. Le fait qu'on fasse une déclaration en France, le côté inquisitorial, qu'on aille regarder dans votre portefeuille combien vous avez, ça passait pas à l'époque. Et donc, pendant tout le 19e siècle, globalement, tous les projets de loi avortent avec des formules extrêmement dures à l'Assemblée en disant qu'on allait rendre les gens feignants parce qu'on allait commencer à leur prélever de l'argent. Et donc, tous ces projets ont avorté et Joseph Caillaux a porté le 200e projet. Il a réussi. Mais vraiment, ça a été extrêmement difficile. Et c'est vrai que les sénateurs qui étaient un peu plus conservateurs que l'Assemblée nationale, déjà à l'époque, globalement, ont essayé de faire barrage à ce projet de loi.
Philippe Revel, vous tenez la promesse, avec vous l'impôt, c'est fun. Et alors du coup, on va rentrer dans le détail, on va raconter les tout premiers impôts. Vous nous avez dit la taille personnelle, mais c'était quoi et ça date de quand ?
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Attention, nous parlons d'impôts ce soir, d'impôts sur le revenu, mais restez, parce qu'on a un invité qui nous fait du bien, qui nous désacralise cette histoire de l'impôt, qui nous la rend simple, fun. Et on découvre aussi que finalement, on n'est pas si mal loti aujourd'hui, car avant, c'était pas si juste que ça, l'impôt. Mais on va avoir le temps d'en parler avec vous, Philippe Crevel. Vous êtes économiste et vous nous accompagnez sur cette question de l'impôt. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué assez rapidement. Les premiers impôts, c'est quoi ? C'est la fameuse dîme et gabelle qu'on apprend quand on est en cinquième et on sait plus trop ce que c'est aujourd'hui.
Les premiers impôts, en fait, c'est Philippe le Bel. C'est la guerre de 100 ans. Déjà, toujours la guerre, dès qu'on veut taxer. C'est parce qu'il faut financer les dépenses militaires. Et donc Philippe le Bel a des problèmes. On est en pleine guerre des 100 ans. La France n'est pas au mieux. Et donc il faut évidemment imposer. Et donc il va évidemment essayer de trouver des ressources. Avant, le roi, il se finançait sur les ressources agricoles, sur son domaine royal. Et puis ça n'a pas suffi. Il a demandé aux seigneurs de payer. Il a commencé à dire vous allez me payer de l'impôt. Et puis à l'époque, qu'est-ce qu'on commerçait ? C'était le sel. Il fallait échanger le sel. Et il s'est dit, la gabelle, c'est l'impôt sur le sel. Et donc, dès qu'il y avait transport de sel, on payait un droit de péage sur le sel. Et ça a permis de financer le roi et les armées du roi. Après, il y avait la dîme, la fameuse dîme. Alors, la dîme, au départ, c'est pour payer le clergé. Parce qu'évidemment, il fallait construire les cathédrales. Les cathédrales, on raquettait un petit peu le maçon du coin, celui qui cassait les pierres, etc. Mais ça suffisait pas, parce que bon, construire Chartres, vous voyez la hauteur, il fallait un peu d'argent. Et donc, dans ces cas-là, le clergé, évidemment, imposait et prenait la dîme. Alors, à l'époque, on avait un problème de statistique. L'INSEE n'avait pas été inventé. Et donc, on n'avait pas forcément une vision très claire des revenus. Donc, on regardait un peu la superficie de l'exploitation, qu'est-ce que ça pouvait produire.
Vous à l'œil, quoi.
Voilà, à l'œil. Et on disait, ben, toi, tu vas devoir 100, 200, 300, 1 million, etc.
Ça ne les rendait pas fous, les gens ?
Si, un peu, parce que ce n'était pas très égalitaire. Il fallait mieux être copain avec le seigneur du coin. Et c'était tout le problème, c'était de créer un système fiscal. Il a fallu attendre Colbert, Vauban, sous Louis XIV, pour avoir un système un petit peu administré, pas toujours égalitaire, mais déjà un peu plus rationnel.
De cette dîme ?
De cette dîme, de cette taille. Et même la gabelle, à l'époque, ben, c'était un petit peu du racket. Hein. La fiscalité, c'était en fonction du pays, de la région et de l'air du temps. Donc ça faisait évidemment beaucoup de mécontentement. Et d'ailleurs, les bonnets rouges de Bretagne ben, sont un peu nés de ces impôts, de la dîme, de la gabelle. Et les Bretons étaient très très forts pour évidemment empêcher les rois et autres d'imposer. Et par exemple, la gabelle, l'impôt sur le sel, n'a jamais franchi la Bretagne. Donc on voit que les portiques en la matière, eh ben, ils n'ont fait que répéter ce qu'ils avaient fait quelques siècles auparavant, au 14e ou au 15e siècle.
Mais aujourd'hui, on paye bien l'impôt sur le revenu, hein, je vous confirme.
Et en Bretagne aussi.
Oui, mais on n'a pas payé les cotaxes, effectivement. Les jacqueries, en fait, c'est ça ? Les jacqueries,
tout à fait,
elles étaient déclenchées par les impôts.
Bien sûr.
C'est d'abord ça.
Oui.
Alors, vous avez cité la taille personnelle, mais dans le détail, vous l'avez expliqué aussi ou j'ai raté une marche ?
Alors, la taille personnelle, en fait, ça devait être le premier impôt sur le revenu. Et donc, c'était l'idée déjà d'imposer les Français. Ils devaient faire des déclarations. Évidemment, ça a un petit peu, ça a posé problème. Et donc, in fine, on se retrouvait quand même avec un impôt sur les contributions foncières, sur les revenus des exploitations. Et on n'était pas à la notion d'impôt sur le revenu et encore moins d'impôt progressif sur le revenu. On était sur quelque chose qu'on appelait de la captation. Donc, la capitation.
Capitation.
Qu'est-ce que ça signifie?
Ou la décapitation, hein, mais.
Oui, c'est pas loin. Mais en fait, globalement, le roi disait à ses seigneurs « Je veux 4 millions ». Les seigneurs se retournaient vis-à-vis des, donc de leurs passeurs, parce qu'ils ne payaient pas d'impôts, mais vis-à-vis des fermiers, etc., en disant bah, « Vous allez me verser 4,5 millions. » Normal, il fallait qu'ils fassent leur bénéf. C'est logique. Hein, et ils se répartissaient le montant. Alors qu'aujourd'hui, on a des pourcentages, etc. C'est un peu différent. On n'est pas dans le système de capitation. Ça veut dire qu'on n'a pas un montant fixe au départ à répartir entre tous les Français. C'est la nuance à l'époque. Et puis en plus, il faut voir que les seigneurs, évidemment, se prenaient un petit pourcentage.
Oui, il y avait ça. Et puis il y avait cette taille personnelle aussi. Ne touchait pas certains privilégiés. Il y avait des exemptés, c'est ça ?
Bien sûr.
Des niches fiscales déjà.
Eh oui, la niche fiscale est quelque chose qui a donc la dent dure et qui, globalement, existe depuis des siècles. Par exemple, le clergé refusait de payer la taille personnelle en disant que c'était eux qui prélevaient les impôts. Ils n'avaient quand même pas payé pour le roi. Et d'ailleurs, le pape leur disait « Surtout, vous ne payez pas !» Et que globalement, d'ailleurs, je vais même interdire au roi de prélever des impôts parce que ça va diminuer votre assiette fiscale. Parce que, évidemment, le clergé prélevait la dîme du clergé en concurrence de la dîme royale. Et donc, évidemment, il y avait télescopage.
Mais le clergé qui ne paye pas d'impôts, c'est toujours le cas en Grèce.
Tout à fait.
C'est pour ça que quand on se balade en Grèce, il y a souvent des petites chapelles dans à peu près toutes les propriétés ou tous les jardins, etc. Parce que ça permet d'échapper à une partie de l'impôt.
Eh oui.
Ça alors.
Mais oui. Donc ça survit aussi dans d'autres pays. On continue de faire cette liste-là d'impôts. La capitation, on vient de l'apprendre. Le dixième, c'était quoi le dixième qui est devenu vingtième ensuite ? C'était un pourcentage ?
C'était un pourcentage de revenus. Là, toujours, c'était l'idée d'essayer de taxer les revenus. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très ancien. Hein, on se dit, bon, il y a du flux. Hein, quand il y a du flux, c'est une tentation. On va essayer d'imposer. Alors évidemment, il y avait le problème des statistiques. Hein, là, toujours le problème. Et donc, on s'était dit, bah, on va taxer un dixième des revenus. Puis après, on s'est dit qu'un dixième, c'était pas assez. Donc, on va passer à un vingtième. Et globalement, au moment de la Révolution française, ce sont ces impôts, la taille personnelle et les dixièmes qui ont posé problème et qui ont évidemment soulevé un petit peu le peuple contre à la fois le clergé et contre les nobles.
Parce que le dixième, c'est Louis XIV qui l'instaure. Là aussi, je pense que vous allez nous redire que c'est pour financer la guerre, c'est ça ?
Bien sûr.
L'histoire est un éternel recommencement, même
bien
pour l'impôt.
Sûr, on a toujours en France le problème des rois. Alors, il faut voir qu'à l'époque, en plus, il n'y avait pas de distinction entre leur caisse personnelle. Ça, c'était génial.
Et leur porte-monnaie. Leur porte-monnaie et les caisses de l'État, c'est ça ?
Les caisses de l'État, c'était la même chose. Donc, globalement, on finance Versailles à la fois sur la caisse du royaume, sur la caisse du roi et surtout la caisse du peuple. Et donc, évidemment, ça crée quelques problèmes. Et le roi, en plus, s'il devient guerrier, comme Louis XIV, eh ben, globalement, il a besoin de prélever de plus en plus d'argent. Et on l'a vu sous Louis XIV, et d'ailleurs sous Louis XVI, parce qu'il y a une petite crise économique déjà à l'époque. Qu'est-ce qui entraîne le fait qu'il y a des problèmes financiers? C'est l'accumulation de guerre et crise économique. Louis XVI, il fait froid, il y a des problèmes de famine, et en plus, il y a quelques conflits, et puis les arriérés de paiement des deux précédents rois à payer. Et là, c'est vraiment très problématique, et c'est ce qui va entraîner, évidemment, la Révolution française.
Et c'est ce dont on va parler. Vous nous faites cette transition parfaite dans un instant, Philippe Crevel, avec vous, dans la curiosité.
Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Bon, papé, la peau, il faut naître à Monaco.
Les curieux sont sur RTL.
Ça sert à quoi de vouloir quitter la France quand on est auvergnat?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ça s'appelle un grand écart.
Ah oui.
Musical.
Mais je préfère les Beatles, comment vous dire. Taxman. Avec l'économiste Philippe Crevel, on découvre l'histoire de l'impôt sur le revenu. On était à la Révolution. Tiens, je vais lire l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une idée d'égalité devant l'impôt avec la Révolution française.
La Révolution française, c'est évidemment le souhait que tous les citoyens soient mis à égalité devant les charges publiques et que l'on cesse avec les privilèges. C'est la fameuse nuit du 4 août, la fin des privilèges. Et que le clergé, pas comme en Grèce, paie l'impôt, que les nobles paient l'impôt comme les roturiers. Alors, il y a une ambiguïté derrière cet article 13. C'est savoir, est-ce qu'il faut que l'impôt soit proportionnel au revenu ou est-ce qu'il soit progressif?
Alors c'est quoi un impôt progressif?
L'impôt progressif, c'est que plus on est riche, plus on paie. L'impôt proportionnel, c'est un montant, donc un pourcentage, 10% de son impôt, de ses revenus, qu'on donne aux impôts, qu'on soit riche ou pauvre.
Qu'est-ce qui va être choisi alors?
Ben, la Révolution française, c'est plutôt une révolution bourgeoise. Et donc, eh ben, on va choisir plutôt l'idée de proportionnalité et surtout pas d'inquisition fiscale. Il ne faut pas aller regarder dans le portefeuille.
Donc on fait confiance aux déclarations des uns et des autres, c'est ça?
On fait les déclarations, taxer. Ou plutôt on refuse l'impôt sur le revenu progressif et on refuse même l'impôt progressif et on se dit on va rester sur des formes assez traditionnelles, eh ben, de contribution foncière, de taxe sur les propriétés avec cette fameuse taxe sur les portes et fenêtres qui donc va devenir très célèbre parce que évidemment moins on veut payer d'impôts, moins on a de fenêtres et en plus c'était en fonction de la grandeur des fenêtres donc on les réduisait et si on regarde les maisons eh ben, du 18e et du 19e siècle, on s'aperçoit que souvent elles ont des petites fenêtres et voir qu'on élimine complètement les fenêtres et donc
les maisons
étaient très sombres et oui c'était mesquin. En revanche celui qui voulait paraître, qui voulait faire très riche, il augmentait le nombre de fenêtres et en disant, vous voyez, moi, j'ai
la surface
la vie.
Et c'était le nombre de fenêtres et de portes,
voilà.
C'est ça?
Signe extérieur de richesse,
tout
c'est
à
drôle.
Fait. Je crois que Séguéla a parlé de Rolex ces derniers temps. Il fallait qu'à 50 ans, on ait sa Rolex pour avoir réussi à l'époque.
C'est pas ce qu'il a dit de mieux, mais bon.
À 30 ans, on devait avoir sa porte et ses fenêtres.
On devait avoir ses portes et ses fenêtres.
Mais en revanche, je crois que les fenêtres qui étaient sur les toits n'étaient pas taxées, donc on rajoutait à l'inverse des fenêtres sur les toits.
Tout à fait, il y avait... C'était de l'optimisation fiscale. Donc on n'a rien inventé. Et au 21e siècle, en 2015, on ne fait que reproduire ce qui a été fait au 19e siècle, au 18e siècle. Déjà, on optimisait et on cherchait la niche fiscale.
Et en fait, les architectes étaient conseillers fiscaux.
Bien sûr, bien sûr.
Alors Thomas cite la Déclaration des droits de l'homme et moi aussi je peux citer Thomas Balzac qui écrit dans Eugénie Grandet que le père Grandet possédait, je cite, une vieille abbaye où par économie il avait muré les croisées, les ogives et les vitraux pour payer moins d'impôts.
Cet impôt, donc, il est inventé par la Révolution.
Oui.
Et quand est-ce qu'il est supprimé? Ça a duré longtemps, ça?
On s'est aperçu, l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale fait que, évidemment, les gens essayaient de limiter le nombre de fenêtres et que ça rentrait de moins en moins. Et donc, l'État cherche toujours à maximiser son profit et à trouver l'assiette la plus large avec le rendement le plus élevé. Donc, il s'est dit, globalement, les Français ont trouvé la parade, donc on va trouver une nouvelle source de revenus. Et c'est comme ça qu'est né un peu l'impôt sur le revenu en disant, maintenant, les Français sont devenus des salariés, ils touchent des revenus fixes, les revenus fixes chaque mois. Donc on peut les taxer, parce que globalement on peut avoir les sources statistiques, l'information pour les taxer.
Mais cet impôt sur les portes et fenêtres, il était considéré par ses inventeurs, par ses créateurs, comme une sorte d'impôt progressif. Pourquoi ?
Bah, plus on a de fenêtres, plus ça coûte cher, plus on a une maison grande. Donc, logiquement, évidemment, c'est un signe extérieur de richesse, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, on pouvait imaginer que la personne, le contribuable en question, avait de l'argent nécessaire pour être taxé. Donc, c'était pas complètement illogique. Et d'ailleurs, nos impôts locaux, les fameux taxes d'habitation, taxes foncières, taxes foncières sur le non bâti, sont complètement les héritiers de ce qu'on appelle les quatre vieilles, qui ont été créées au moment de la Révolution et qui étaient donc assis sur la propriété, sur la terre, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que la France était un pays rural, composé de paysans, petits propriétaires fonciers, qui avaient réussi à acheter un peu leurs terres. Parfois, pas forcément de manière légale, mais ils s'étaient démerdés au moment de la Révolution française avec les fameux assignats, et que globalement, c'était ça qu'on taxait au 19e siècle et qu'on a transformé progressivement avec l'impôt sur le revenu et les impôts modernes que l'on connaît à l'heure actuelle.
Philippe Crevel, vous disiez que cet impôt sur le revenu, il met du temps à s'installer et à être accepté par les Français qui n'ont pas du tout envie de déclarer leur revenu. Ils n'aiment pas qu'on regarde dans leur porte-monnaie. Quand est-ce qu'en France, vraiment, on commence à payer ses impôts, on déclare ses revenus et on paye des impôts sur le revenu?
Est-ce que vous pensez que l'impôt sur le revenu est accepté aujourd'hui?
On n'a pas le choix, on va dire.
Globalement, quand on voit justement la tentation pour tous les gouvernements de faire des gestes vis-à-vis des contribuables, on sent bien que l'impôt sur le revenu n'a jamais été accepté en France.
Le prélèvement à la source, par exemple.
Eh oui, là, ce serait de le rendre plus indolore.
Ah, ça, c'est la dernière idée, oui.
Voilà. Hein, c'est comment rendre indolore un impôt mal aimé, mal né. Et globalement, il n'y a que 47% des Français qui paient impôt sur le revenu. Alors, quand ça a commencé, les véritables déclarations, ça a commencé donc après la Première Guerre mondiale en 1917. Parce que globalement, pendant la Première Guerre mondiale, c'était un peu le bordel. Avec évidemment.
C'était pas la priorité, oui.
Oui, puis bon, il y avait un peu, entre les activités professionnelles qui étaient un peu en suspens, quelques hommes qui étaient sur le front, c'était pas facile à prélever. Donc en 1917, on est passé aux choses sérieuses, et c'est surtout après la Première Guerre mondiale.
Et dernière question, l'impôt à la source, là, dont on a parlé rapidement, est-ce qu'effectivement on ne paiera pas d'impôt en 2017 s'il est mis en place? Je suis sûr que tout le monde écoute attentivement votre réponse.
Ne rêvez pas.
Ah,
zut. Simplement, on va modifier un petit peu les règles, c'est que aujourd'hui, on paie avec un an de retard. Donc, en fait, quand on paie de l'impôt en 2015, on le paie sur l'assiette 2014.
Nos revenus de 2014.
Voilà, revenus de 2014. Ouais. Simplement, en 2017, on va payer de l'impôt sur le revenu de 2017.
D'accord.
Voilà. Donc, globalement, il n'y aura pas une année blanche pendant laquelle vous ne paierez pas d'impôt.
Mais les revenus de 2016, on les paiera
quand ? On les paye pas, c'est gratuit.
Voilà. Alors après, il n'y a pas de gratuité. Le gouvernement va prévoir des dispositions de telle façon que ceux qui auraient gagné de manière éhontée des sommes très importantes en 2016 paieront quand même des impôts, parce qu'évidemment, il y aurait la tentation de gonfler ses revenus 2016 pour ne pas payer de l'impôt. Donc là, ils sont en train d'imaginer quelques trucs pour faire que, par exemple, sur les plus-values ou sur des revenus exceptionnels, il y a une taxation, évidemment, sur les revenus 2016 qui se rajouteront, évidemment, à la taxation des revenus 2017. Le fisc en la matière a beaucoup d'imagination, et à Bercy, il y a des services fiscaux extrêmement bien élevés et éduqués en la matière.
Merci infiniment, Philippe Crevel.
Merci
avec
beaucoup.
Avec vous, tous illumine. Vous êtes économiste et vous êtes l'auteur de Retraite Juste, un autre monde aux éditions Temporis. Tiens, vous reviendrez nous parler des retraites.
Avec plaisir.
Vous écoutez RTL.